Comment lutter contre le chômage? Comment appréhender le chômage? Définir et mesurer le chômage, une opération complexe. Appréhender le chômage est complexe. D'abord, il existe deux mesures qui ne se recoupent pas forcément, celle de Pôle emploi et celle du Bureau international du travail, BIT. Ensuite, la définition du BIT, être sans emploi, disponible et rechercher activement un emploi, retenu pour les comparaisons internationales, ignore des situations aux frontières du chômage qui sous-estiment son ampleur. Halo du chômage et sous-emploi. Enfin, il existe plusieurs thermomètres. Si le taux de chômage reste l'indicateur traditionnel pour mesurer son ampleur et son évolution, le taux de chômage de long terme renseigne davantage sur la difficulté à trouver du travail, tandis que le taux d'emploi est un indicateur complémentaire. Panorama du chômage, des situations différenciées en France et au niveau mondial. Le chômage touche de manière différenciée les catégories sociales en France. Il frappe davantage les ouvriers et les employés, les moins qualifiés et les plus jeunes. Le genre est moins source d'inégalités aujourd'hui. De même, on constate une hétérogénéité des taux de chômage au sein de l'Europe et une situation contrastée au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, en termes d'évolution ou d'ampleur du chômage de long terme. Ainsi, celui de la France est supérieur à celui de la moyenne de l'Union européenne. Quelles sont les causes du chômage? Un coût du travail trop élevé peut être à l'origine du chômage. Pour les néoclassiques, le chômage classique s'explique par un salaire réel supérieur à celui qui égaliserait l'offre et la demande de travail si le marché concurrentiel fonctionnait librement. Cela aboutit à un excès d'offres qui correspond à un chômage volontaire. Dans ce cadre, le salaire minimum est considéré comme une institution qui a un effet négatif sur l'emploi. Plus largement, c'est le coût du travail qui est jugé trop élevé aujourd'hui et désinciterait les entreprises à embaucher en baissant leur compétitivité, leur profitabilité ou encore en favorisant une substitution du capital au travail. Mais le niveau excessif des salaires peut venir du comportement des employeurs eux-mêmes, comme l'indiquent les théories du salaire d'efficience. Dans un contexte d'asymétrie d'information, il est rationnel pour les employeurs de verser des salaires élevés pour attirer les meilleurs travailleurs, les inciter à l'effort ou baisser le taux de rotation. La source du chômage est bien un salaire trop élevé, mais le chômage est ici involontaire et s'explique par le comportement rationnel des entreprises. Le rôle de la protection de l'emploi dans le chômage structurel. Outre la rigidité des salaires, c'est la rigidité du marché du travail, liée à une trop forte protection de l'emploi, qui est dénoncée par les libéraux. Faute de pouvoir licencier librement ou embaucher avec des contrats plus souples, les entreprises auraient peur d'embaucher, ce qui entretiendrait le chômage structurel. L'indicateur de protection de l'emploi fourni par l'OCDE montrerait ainsi un fort niveau de rigidité du marché du travail en France, comparativement à d'autres pays. Toutefois, il n'est pas possible d'établir statistiquement une corrélation entre niveau de protection de l'emploi et création ou perte d'emploi. Les problèmes d'appariement, source de chômage structurel. Outre la rigidité du marché du travail, le chômage structurel trouve aussi sa source dans des problèmes d'appariement ou match. Il existe trois origines possibles à ces problèmes. Une inadéquation entre offre et demande de travail, qui peut venir des frictions liées au temps de prospection des chômeurs, job search, une inadéquation des compétences et enfin une inadéquation spatiale entre les demandeurs d'emploi et les employeurs. Les fluctuations de l'activité économique, source de chômage conjoncturel. Les fluctuations économiques expliquent le chômage conjoncturel. C'est John Maynard Keynes qui théorise cette idée. Pour lui, le chômage est involontaire et trouve sa source dans l'insuffisance de la demande globale. Si les entreprises anticipent une faible demande globale, en consommation ou en investissement, elles fixent un faible niveau de production, réduisant ainsi le niveau d'emploi, ce qui conduit au chômage. Dans ce cadre, le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. L'existence d'une relation statistique entre évolution du PIB et emploi en France va dans ce sens. Quelle politique de l'emploi pour lutter contre le chômage ? Lutter contre le chômage classique par des politiques d'allègement du coût du travail. Selon l'analyse libérale, la baisse du chômage réclame une politique d'allègement du coût du travail. Si certains pays ont opté pour une action sur les salaires, absence ou faiblesse du salaire minimum, la France a privilégié la baisse des cotisations sociales. Ainsi, depuis 1993, plusieurs mesures prévoient des réductions de cotisations sociales patronales pour les emplois aux alentours du SMIC. Ces politiques de l'emploi comportent toutefois des limites. Baisse de ressources pour l'État et smicardisation des travailleurs principalement. Lutter contre le chômage conjoncturel par des politiques macroéconomiques de soutien de la demande. Pour John Maynard Keynes, la lutte contre le chômage exige l'utilisation de politiques macroéconomiques de relance pour soutenir la demande globale. Les pays pourront opter alternativement ou conjointement pour des politiques budgétaires via la hausse des dépenses publiques ou la baisse de la fiscalité, ou des politiques monétaires de relance via la baisse des taux d'intérêt pour stimuler le crédit. Les États-Unis fournissent un exemple récent de relance par la fiscalité, mais la hausse du salaire minimum est aussi une arme mobilisée par les États. Par ailleurs, ces politiques sont contraintes, en particulier par le niveau déjà élevé de déficit et de dette publique. Lutter contre le chômage structurel par la flexibilité. Le chômage étant aussi de nature structurelle, il faut combattre la rigidité du marché du travail par des politiques de flexibilité du marché du travail. Il s'agit alors d'alléger la protection de l'emploi par des mesures favorisant une flexibilité quantitative des effectifs ou du nombre d'heures de travail et ou qualitative, externalisation ou polyvalence des travailleurs. Mais ces politiques ont, là encore, de nombreux effets pervers, précarisation et pauvreté, baisse de la productivité, baisse de l'implication des travailleurs. Lutter contre le chômage structurel en améliorant les appariements. Le rôle positif des institutions. L'amélioration de la qualité des appariements fait l'objet d'une attention particulière dans un contexte de transition numérique ces dernières années et prend plusieurs voies. Les politiques de formation, initiales ou professionnelles, visent à améliorer l'entrée sur le marché du travail des jeunes, l'employabilité des chômeurs ou encore l'adaptabilité des travailleurs à de nouveaux postes, diminuant ainsi le risque de chômage. Elles participent à l'amélioration de l'adéquation des compétences. On peut aussi chercher à améliorer l'appariement spatial par des mesures comme la création de zones franches urbaines. Enfin, l'État investit dans l'accompagnement des chômeurs. Toutefois, l'efficacité de ces politiques est remise en question. Ce ne sont pas ceux qui ont le plus besoin de formation qui en bénéficient le plus. Agir sur la mobilité des Français reste difficile et les politiques d'accompagnement nécessitent des moyens humains importants.